et scolaires, découvrir leur bunker et vivre au rythme des alertes. Nous avons entamé des contacts avec les jeunes de Dolina qui nous ont exprimé leurs besoins et leurs attentes. Dès 2023, lors de notre journée européenne, nous avons invité une vingtaine de jeunes danseuses et chanteuses ukrainiennes à participer à notre spectacle européen. Ces jeunes, venus en car depuis l'Ukraine, donc 3 jours de voyage, ont pu pendant une dizaine de jours vivre paisiblement, presque normalement. Ils étaient logés chez l'habitant, partageant repas et façon de vivre. Une trêve pour eux pendant un court laps de temps. À Noël dernier, une délégation est venue participer à notre traditionnel marché de Noël et surtout entamer des discussions avec nos autres villes jumelles telles que Denton en Angleterre ou Kirsp en Allemagne afin d'éventuellement ouvrir de nouveaux projets et de nouveaux jumelages. En mai 2024, 11 jeunes musiciens et 12 danseurs âgés de 11 à 16 ans, accompagnés de leurs professeurs de danse et de musique, sont venus sur Montigny. Nous avons organisé leur arrivée de la meilleure façon possible dans des familles d'accueil. Ces familles se sont investies pour que nos amis ukrainiens se sentent comme chez eux. Le samedi, nous avons organisé un spectacle où ils ont pu montrer leur talent et ainsi que leur instrument local qui est le bandoura, mais également participer à un spectacle avec toutes nos différentes associations. Nous avions également organisé un concours au niveau de nos écoles élémentaires sur l'Europe. Donc une de nos écoles avait choisi l'Angleterre, mais la deuxième nous a fait un spectacle très émouvant sur ce qu'était la guerre en Ukraine. Le dimanche, lors de notre marché du terroir, les Ukrainiens ont pu tenir un stand et vendre des produits locaux et artisanaux. Bien entendu, tout le bénéfice est parti pour les soldats sur le front. Lors des quelques jours qui ont suivi, les jeunes ont pu s'exercer lors d'une session d'escalade au Vertical Art, ainsi qu'une expérience de Formule 1. Ils avaient l'impression de vivre comme tout le monde. Les jeunes filles ont eu toute la chance de visiter Paris. Pour certaines, c'était la réalisation d'un rêve. Certaines d'entre elles n'avaient jamais imaginé pouvoir un jour voir la dame de fer qui pique le ciel, comme ils l'appellent là-bas. Nous sommes fiers d'avoir pu leur offrir cette opportunité. Le dernier jour s'est déroulé dans le collège de la ville où ils ont pu suivre les cours avec des jeunes étudiants. Ils ont pu comparer leur façon d'apprendre par rapport aux nôtres. Ils ont également échangé sur la possibilité de développer des correspondances entre les deux collèges. L'après-midi, ils ont visité notre forum des arts et ainsi pu créer des liens pour organiser sur l'année 2024-2025 des spectacles de danse, de théâtre et de musique. Pendant ce temps, le maire de Dolina, pardon, M. Ivan Diriv et sa délégation ont eu l'opportunité de découvrir le golf. Le golf n'existe pas en Ukraine. Donc du coup, ça leur a donné des idées. Ils vont peut-être faire des terrains de golf maintenant sur Dolina. Le soir, la délégation officielle a été invitée à participer au conseil municipal de la ville. Cette occasion particulière a permis à M. le maire de Dolina, Ivan Diriv, de prendre la parole et de présenter une courte vidéo représentant les 2 ans de jumelage entre nos villes. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien et l'aide apportés à leur ville et à leur pays. Ensuite, nos familles d'accueil sont venues pour dire au revoir à nos amis ukrainiens et leur souhaiter courage et résilience face à la situation difficile et aux défis de la guerre dans leur pays. Notre objectif principal était de leur transmettre un message de paix et de leur montrer notre soutien inconditionnel. Cet événement nous a donné l'occasion de célébrer ensemble le symbole de l'amitié entre nos villes jumelées, Dolina et Montigny-le-Bretonneux, une expérience inestimable pour tous les participants. Je tiens à remercier la FCCR pour leur soutien financier qui nous a permis de mener à bien ce projet. Dès que nous en avons l'opportunité, nous invitons un groupe de jeunes de Dolina à venir faire une trêve dans notre pays. De nombreux projets sont encore en cours, comme un stage dans notre club d'escrime ou encore un tournoi international d'échecs avec nos différentes villes jumelles. Ce jumelage solidaire est un exemple éclatant d'amitié et de solidarité. Il symbolise l'intégration et l'amour que nous portons les uns aux autres, renforçant notre vision d'une Europe unie plus que jamais. Merci.
monsieur. Oui, je veux bien, merci.
Désolée.
C'est celui-là, merci. Bonjour à tous, du coup je suis Marine Borsato, je suis coordinatrice des programmes à SO Coopération et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter le programme Inspire et représenter également trois réseaux régionaux multi-acteurs. Les réseaux régionaux multi-acteurs, vous en trouverez dans chaque région. On est là pour accompagner les dynamiques de coopération et de solidarité au sein de vos territoires. Et aujourd'hui, je représente du coup la dynamique avec Liane Coopération pour les Hauts-de-France, Pays de la Loire Coopération Internationale et SO Coopération pour la Nouvelle-Aquitaine. En 2022, ce projet est bien évidemment soutenu par le ministère des Affaires étrangères. Il ne faut pas que j'oublie. Merci. En 2022, vous l'avez tous un peu prédit aussi, il y a eu un gros élan de solidarité. Que ça soit par les collectivités territoriales, des associations sur place, mais également aussi des initiatives individuelles. Et nous, en tant que RRMA, on avait envie justement de transformer un petit peu cet élan de solidarité en des actions de moyen long terme, puisque dans notre accompagnement avec les collectivités, nous ne faisons pas d'urgence. Les collectivités territoriales ont répondu présent au début avec des dons, de l'envoi de matériel et autres. Mais opérer dans l'urgence sur le long terme, ce n'est pas une compétence très facile à avoir. Et donc on avait envie de réfléchir avec les collectivités territoriales à comment transformer cet élan sur le plus long terme. Donc nous avons créé le programme Inspire, où vous trouverez la définition en anglais juste là. Je vais vous épargner mon accent. Et oui, non, je non, merci. Et le but premier d'Inspire, c'était vraiment d'amorcer et de renforcer les coopérations avec l'Ukraine, mais également la Pologne et la Roumanie. Juste un petit point, pourquoi justement ça nous tenait à cœur de mettre la Pologne et la Roumanie dans le programme. En premier, ce sont des pays limitrophes qui ont accueilli des réfugiés. Et donc, du coup, ces pays avaient également besoin d'accompagnement ou d'appui pour accueillir ces réfugiés. Les collectivités françaises, en tout cas de nos régions, avaient plus facilement des coopérations avec la Pologne et la Roumanie, historiquement. On avait moins de coopération officielle avec l'Ukraine. Et donc, c'était pour nous plus facile également, et pour les collectivités, plus facile de passer par leur coopération polonaise et roumaine, pardon, qui avait, elle, des liens avec l'Ukraine. Donc on a créé pour certaines collectivités des espèces de triangles où chaque collectivité était en lien. Et également, puisqu'on avait envie aussi de se rassembler autour de valeurs communes, notamment, et vous en avez discuté, autour des droits, les LGBT, autour des migrations également, et ça nous paraissait important de mettre dans la boucle ces trois pays là-dessus. Donc concrètement, le programme Inspire, c'est 16 collectivités françaises qui se sont intégrées, qui ont été accompagnées par les RRMA dans leur réflexion et la mise en place d'actions. Je dis réflexion parce que on avait vraiment toutes sortes de collectivités, des régions, des métropoles, et des petites communes de 2000 habitants. Du coup, pour certaines, c'était vraiment des réflexions sur comment on coopère et notamment comment on coopère en temps de guerre, ce qui n'était pas facile. Pour les actions, nous avons du coup accompagné et cofinancé l'envoi et l'accueil de délégations, l'organisation d'échanges de jeunes, de séjours de répit. Alors les séjours de répit, c'est arrivé un petit peu plus tard. On avait déjà déposé le projet et on n'avait pas vraiment... C'est pas quelque chose qu'on avait réfléchi en amont, mais les collectivités ont très vite pris le pied justement d'accueillir des jeunes Ukrainiens, comme vous l'avez expliqué aussi, pour des temps de répit, des temps de pause. Et donc pour cela, on s'est appuyé sur une association basée en Belgique, Europe Przyjaźń. Excusez-moi pour l'accent, je crois que ça veut dire abri en ukrainien. Nous avons également appuyé l'organisation de manifestations culturelles. Et notamment, nous avons créé l'exposition que vous pouvez voir juste ici. C'est un échantillon de l'exposition. Il y a 21 panneaux. Ça nous semblait important, en fait, de faire aussi des actions sur nos territoires en faveur des établissements scolaires, des jeunes, mais aussi des associations qui travaillent toujours avec l'Ukraine. Vous pourrez retrouver également aussi, on a fait plein de livrets pour les établissements scolaires ici pour travailler sur les conséquences de cette guerre. On a beaucoup parlé justement des conséquences énergétiques, agricoles et autres. Donc le but, c'était vraiment d'en parler ici sur nos territoires et de faire parler et de montrer que les collectivités avaient un rôle dans la diplomatie de territoire à territoire. Donc voilà, elle est disponible, vous pouvez venir nous voir, et elle est disponible pour toutes les collectivités, même celles qui ne sont pas dans Inspire. La sensibilisation sur nos territoires, c'était important aussi parce que c'est souvent la première chose que font les collectivités qui ne font pas de coopération, qui n'ont pas l'habitude. Elles accueillent l'exposition, généralement autour d'un repas, d'un repas ukrainien, d'un repas polonais. Ça permet de faire rencontrer aussi des associations qui travaillent et après de déclencher des projets. Donc c'est vrai que pour nous, cette exposition est le commencement en fait de coopération un peu plus sur le long terme par la suite. Nous soutenons aussi des activités de réponse à la crise ukrainienne. Est-ce que vous pouvez ? Merci. On cofinance également des projets d'appui, notamment de l'achat de générateurs pour l'envoi à Boutcha, de la communauté urbaine de Dunkerque, des projets d'architectes à Kiev pour la reconstruction d'un square d'enfants. L'envoi de subventions aussi pour soutenir les associations qui accueillent des réfugiés. Donc ce sont à peu près les quatre thématiques. Là, vous pouvez voir un petit peu... en chiffres, ce que ça donne, 4 séjours de répit, mobilité jeunesse, 7 nouvelles coopérations avec l'Ukraine. Alors, il y en a qui sont en cours d'officialisation, une exposition créée et de l'appui de matériel. Tout ça ne représente pas tout ce qui a été fait par les collectivités, mais vous en avez au moins un échantillon. Le programme se termine en décembre 2024. On essaye un petit peu de faire le bilan de ces 2 ans et demi pour nous. Et on a repéré un petit peu deux difficultés. En premier lieu, les collectivités ne sont pas de la même taille et donc du coup ne sont pas au même point dans leur réflexion. Donc pour nous, c'était quelque chose d'assez difficile pour accompagner. Mais je pense qu'on a quand même réussi à créer une dynamique. Et pour les collectivités territoriales, la difficulté, c'était de comprendre la structuration de l'Ukraine, et notamment dans le contexte de guerre. On a parlé de décentralisation, on a parlé des acteurs qui travaillent, quels acteurs, de l'urgence, de coopération. C'était assez... on a défriché avec les collectivités là-dessus. Et... juste la dernière, merci. Et là vous avez les... Donc à la suite de ce programme, on aimerait justement développer une autre phase et suite aux enseignements que nous avons eus pendant ces 2 ans et demi notre lien aussi avec l'ambassade de France à Kiev, on a pu repérer justement, et vous l'avez aussi très bien dit, des 3 thématiques sur lesquelles les collectivités ukrainiennes ont des besoins. La décentralisation, l'intégration dans l'Union européenne et la transition écologique. Tout ça dans une visée de reconstruction. Quand les collectivités ukrainiennes parlent de reconstruction, ce n'est pas que de la reconstruction de bâtiments et autres, c'est vraiment en fait aussi de l'échange d'expertise avec des collectivités françaises justement en vue de la reconstruction. Donc c'est comme ça qu'on voit en tout cas une suite au programme Inspire. Et donc je vous invite tous à venir au forum à Lille sur les coopérations européennes au service d'une Europe plus juste et solidaire, où on va réunir l'ensemble des partenaires. Je n'ai pas cité Électriciens sans frontières aussi, mais qui nous ont beaucoup aidés. Voilà, des ONG, des collectivités et autres. Et nous invitons également aussi les partenaires ukrainiens, polonais et roumains à venir au forum. Il y aura une traduction également aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Merci.
Alors, bon après-midi, presque bonsoir. Je me présente, je suis Boris Tannhauser, directeur de Plateforma. Plateforma, c'est un réseau des réseaux. Nous sommes un réseau des collectivités et leurs associations qui sont actives dans le domaine de la coopération décentralisée. Donc, nous sommes basés sur Bruxelles et le secrétariat de Plateforma est accueilli par le Conseil des communes et régions d'Europe, CCRE. Vous allez peut-être reconnaître ces lettres dans le AFCCRE. Ça, c'est notre membre français, association française du AFCCRE, un des adhérents, membres fondateurs de l'association en 2051. Donc, Plateforma comme réseau des acteurs qui soutient la coopération décentralisée existe depuis 2008. Et avec CCRE qui s'est impliqué beaucoup depuis le début de la guerre en Ukraine, a travaillé avec les associations nationales dans toute l'Europe pour pouvoir coordonner ou donner un appui aux efforts que les associations et leurs membres font ou ont fait à l'époque pour commencer l'aide à l'Ukraine. Donc CCRE a conçu un projet principal, un projet phare, je veux dire, pour CCRE, qui s'appelle Bridges of Trust, les ponts de confiance. Ça, c'était le projet qui est cadré par le grand programme ULEAD. C'est un programme de l'Union européenne avec plusieurs États membres au sein de l'Ukraine, où nous ont été invités de créer un programme de jumelage entre les villes ukrainiennes et les villes européennes en sa entièreté. Donc, ce premier programme, Bridge of Trust, a abouti à une trentaine, donc il y a 30 partenariats qui ont été créés avec le soutien des associations nationales en Europe, y compris bien sûr avec la coordination et coopération avec l'association de villes ukrainiennes, qui aussi également est l'adhérent au CCRE. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? À quoi ça aboutit, cette coopération, ces partenariats ? Bien sûr, vous avez déjà entendu tous les enjeux, tous les classiques, comment une coopération, comment un jumelage fonctionne, c'est quoi les thématiques sectorielles, c'est quoi les défis pour ce type de coopération. Pour nous, surtout comme il ne s'agissait pas des jumelages qui datent depuis des années, comme des exemples ailleurs, on s'est focalisé beaucoup sur le processus de création de partenariats. Partenariat, c'est aussi quelque chose qui a ses règles, ses cadres. Donc, comment développer un partenariat et comment pérenniser ce type de partenariat des deux villes qui n'ont jamais eu une ville jumelée, qui n'ont aucune idée comment ça fonctionne. Imaginez que la plupart, ce n'est pas des villes françaises qui ont beaucoup des programmes d'appui, qui ont beaucoup des connaissances sur ce genre de coopération. Des villes en Slovaquie, des villes en Hongrie, des villes en République tchèque ou Pologne, il y a forcément beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins de connaissances, beaucoup moins de savoir-faire de ce type de collaboration. Donc, bien sûr, il y avait les premiers essais après le commencement de la guerre, après la Russie a attaqué l'Ukraine, de fournir l'aide humanitaire, l'aide d'urgence. Ça, c'est à transformer au fur et à mesure à un échange ou fournissage du matériel, mais plutôt connaissance maintenant. Donc, c'est quoi la connaissance politique, la connaissance technique au niveau local dans les villes européennes qu'on peut partager avec succès avec les villes ukrainiennes. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées par nos membres, par nos adhérents, y compris FCCRE. Par exemple, les échanges, les débats entre les élus, échanges d'expériences ou identification des moyens d'aider aux villes ukrainiennes. Bien sûr, comprendre déjà comment ça se passe sur le terrain en Ukraine, c'est quoi les défis pour une ville ukrainienne dans une zone de guerre ou hors de zone de guerre, comme je viens discuter avec le maire de Zaporijia, tout simplement 2000 vitrages brisés. Ça, c'est un défi concret qu'il faut adresser dans une ville qui était sur l'attaque russe. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire parmi ces villes partenaires. On a été déjà mentionné, par exemple, accueillir les enfants pendant les étés, pendant les vacances scolaires, qui sortent un peu de la réalité de la guerre, qui se ressent un peu dans la sécurité, dans une ville normale, qui fonctionne avec leurs amis du même âge pour une durée de temps au moins. Bien sûr, on fait aussi des échanges ou des débats, dialogues au niveau politique. Par exemple, on organise toutes les années un forum des leaders, un leaders forum, donc c'est un forum des leaders, des élus locaux, des maires, des conseillers, pour échanger un peu à l'ensemble des défis qui sont là, échange d'expériences, échange des bonnes pratiques. Des villes ont beaucoup de partagés, qu'on vient de voir, vient d'écouter. Il y a plein d'activités qui se passent sur le terrain. Ça peut inspirer beaucoup d'autres. Ça peut inspirer beaucoup d'autres partenariats de développer des actions similaires, des actions sur le terrain en Ukraine. Bien sûr, CCRE s'implique également dans un organisme coordonnateur qui s'appelle Alliance pour la reconstruction d'Ukraine, qui a été construite, menée par le comité de région sous la coordination du comité SIDEX, dont M. Nolinos est également président. Vous êtes aussi au courant de ce que se passe, qu'est-ce que se passe. Et dernièrement, cette année, pour la première fois, nous avons participé et contribué à la grande conférence pour la reconstruction d'Ukraine. C'était à Berlin, une grande conférence européenne, où notre idée de développer quelque chose de super très concret pour les villes ukrainiennes. Nous avons fait avec le programme ULEAD aussi un mapping des jumelages avec des villes ukrainiennes. Vous allez voir, peut-être c'est un peu petit et vous êtes un peu loin, mais ça c'est la situation 1994, ça c'est la situation des partenariats des villes ukrainiennes en 2024. Notre idée, notre grande idée qui est sur la table maintenant, c'est commencer à développer 1000 partenariats avec des villes ukrainiennes. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous imaginez que l'Ukraine a 10 000 collectivités territoriales, c'est juste 10% des collectivités où on veut entamer des jumelages, des partenariats avec eux. Donc c'est un peu l'ensemble de processus qui sont en cours. Bien sûr, on veut s'impliquer dans la reconstruction d'Ukraine. C'est très important de comprendre les défis sur le terrain et les moyens que les collectivités européennes peuvent apporter à cette reconstruction. Et maintenant, vous êtes bien sûr au courant, l'Ukraine est devenue un pays candidat pour adhérer à l'Union européenne. Pour nous, c'est un nouveau défi pour les collectivités ukrainiennes de comprendre qu'est-ce que ça veut dire devenir une collectivité au sein de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de connaissances à acquérir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va maintenant désormais développer pour ces collectivités, pour qu'ils soient prêtes, pour qu'ils comprennent les processus européens, pour qu'ils développent déjà des compétences au niveau local. Au moment d'adhérence, au moment d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ils seront prêts, ils seront déjà là, ils seront formés, ils auront des connaissances sur les programmes européens, sur les institutions où ils seront représentés autant que collectivités locales, territoriales ou régionales, ukrainiennes. Donc c'est des processus bruxellois, c'est ce qu'on fait au niveau Bruxelles, association européenne des collectivités territoriales, locales et régionales, et nous accompagnerons les collectivités ukrainiennes jusqu'il faudra. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors le protocole veut que l'État s'exprime en dernier, mais c'est souvent là où la tension est la plus faible. Donc voilà, je suis le dernier, vous inquiétez pas. Monsieur le vice-président, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les maires, les adjoints aux maires, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. La France, grâce à l'appui inédit des collectivités territoriales, joue aujourd'hui pleinement son rôle dans son soutien à l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, l'a de nouveau réaffirmé à l'Assemblée générale des Nations unies au début du mois d'octobre. La France continuera à soutenir l'Ukraine sur tous les plans et dans le long terme. Nous activerons tous les instruments européens et garantirons à l'Ukraine un chemin vers l'Union européenne et vers l'OTAN. En guise de propos introductifs, je voudrais vraiment et sincèrement saluer la grande solidarité dont ont fait preuve les collectivités territoriales françaises afin de venir en aide à l'Ukraine suite au déclenchement du conflit. Depuis 2022, c'est plus de 9 millions d'euros de soutien qui ont été votés par 2250 collectivités territoriales en France afin d'abonder le fonds de concours à l'action extérieure des collectivités territoriales, le FACECO. Ce fonds continue encore aujourd'hui de financer des actions humanitaires en Ukraine et à la réhabilitation d'urgence d'infrastructures. Cet élan de solidarité honore la France. Et je voudrais saluer les collectivités, avoir les visages amicaux que j'ai croisés, Clermont-Ferrand, bien sûr la région Grand Est, Monsieur Debève, Bourgogne-Franche-Comté, Nancy. Et je sais quel est votre engagement sur le sujet. Notre enjeu collectif aujourd'hui est de commencer à penser l'après, de transformer notre élan de solidarité en coopération approfondie et d'accompagner l'Ukraine dans son chemin européen. Tout d'abord, pourquoi ? Pourquoi les collectivités ukrainiennes auraient-elles besoin des collectivités territoriales françaises ? Parce qu'en dehors de leur capacité financière, les collectivités territoriales françaises disposent d'une expertise unique qu'elles mobilisent déjà au service des collectivités européennes. Notre modèle de décentralisation à la française assure un juste équilibre entre impulsion gouvernementale, contrôle, confiance, grâce au principe de libre administration qui permet aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle de service public de proximité. Les élus locaux, grâce à la confiance qu'ils inspirent, demeure pour la grande majorité de nos concitoyens le visage familier du modèle français de service public. Le service public de l'eau, de l'énergie, des transports, de l'aide sociale, aujourd'hui, quel autre expert que les collectivités territoriales ? Dans quel autre pays dans le monde s'interroge-t-on avec autant de passion de savoir si le service public de l'eau doit être intercommunalisé ou pas ? Ensuite, que faire ? Tout d'abord, maintenir un dialogue constant avec les Ukrainiens. Nous devons nous prémunir, et vous l'avez dit, Monsieur Molinos, nous prémunir de la tentation de voir une actualité en chasser une autre, sans continuer à porter haut notre soutien à l'Ukraine, en ayant cette exigence continue que les arbres de la coopération décentralisée pourront porter leurs fruits. Ce dialogue passe par plusieurs formats que vous connaissez déjà, jumelage, rencontre entre élus, voyage d'études, coopération décentralisée, groupe de travail. Et je voudrais souligner du coup ce moment important qu'on aura au Congrès des maires le 19 novembre prochain, qui sera un moment important. Près de 50 partenariats de coopération, majoritairement des jumelages, lient aujourd'hui les collectivités françaises aux collectivités ukrainiennes, dont plus de la moitié sont intervenues après le déclenchement de la guerre. Afin de soutenir ce dialogue, le ministère des Affaires étrangères et la DCTCIV accompagnent deux instances de dialogue, une portée par le RRMA d'Occitanie, Socoopération, et l'autre par la FCCRE. Ces deux instances de dialogue ont pour projet de mettre en réseau des collectivités territoriales françaises avec des collectivités ukrainiennes. Plus largement, la DCTCIV a mis en place un programme d'échange technique, le programme EXPECT, E-X-P-E-C-T, dont vous pouvez tous bénéficier si vous souhaitez financer l'échange des échanges d'experts. Ensuite, mener des actions concrètes. La coopération décentralisée est un mode d'action privilégié du partenariat franco-ukrainien. Aujourd'hui, près de 35 actions de coopération sont en cours, dont 18 ont été initiées depuis le début de la guerre. La contribution des collectivités territoriales, fin 2024, tout dispositif confondu, se situe à peu près 13 millions d'euros depuis le déclenchement de la guerre. La DCTCIV accompagne trois d'entre elles à hauteur de 240 000 euros, porté par le Conseil régional d'Île-de-France, le Conseil régional des Hauts-de-France et la communauté urbaine de Dunkerque. Ainsi, et actuellement, nous réfléchissons au sein de la DCTCIV à lancer un appel à projet spécifique à l'Ukraine, qui aura lieu l'année prochaine. Donc ainsi, je ne peux que vous inciter à candidater à cet appel de... Je ne peux que vous inciter à postuler à cet appel à projet et suis à votre disposition pour toute question. Mon adresse mail, alors on l'a pas mis sur le PowerPoint, mais c'est frédéric.blanc@diplomatie.gouv.fr comme tout agent du ministère. Donc quelques conclusions. Tout d'abord, les collectivités ukrainiennes sont demandeuses de coopération accrue avec les collectivités françaises et la DCTCIV sera toujours à votre disposition pour vous accompagner sur ce volet-là, notamment sur le volet partage de l'expertise. Deuxièmement, nous devons être capables de transformer nos bonnes volontés en actions concrètes en faveur de la construction de l'Ukraine. Pour vous paraphraser, Monsieur Molinos, vous aviez parlé au congrès des régions de passer des déclarations d'amour aux preuves d'amour et je suis très d'accord sur ce point-là. Les actions de coopération décentralisée en cours soulignent la place majeure qu'occupent les questions de gouvernance et d'accès aux services publics dans le sujet de la reconstruction. Enfin, les collectivités territoriales françaises ont un rôle majeur à jouer afin d'inscrire cette aide dans la durée, de participer à la reconstruction du pays et d'accompagner l'Ukraine dans son chemin européen. Pour terminer, je souhaiterais remercier CUF, grâce à qui nous sommes réunis aujourd'hui et la qualité des liens profonds qui nous unissent tous. Merci beaucoup.
Allez-y. Bonjour à tous, je suis Michel Sabatier, je suis responsable des relations internationales de la ville de La Rochelle. Et je vous avoue très humblement d'être très jaloux de Montigny-le-Bretonneux et de Nancy. Parce que nous avions été approchés par une délégation de Mariupol à l'époque de la première invasion, de la conquête d'une partie du Donbass, et donc qui privait Mariupol de son activité sidérurgique et portuaire. Donc Mariupol voulait se reconvertir, ils ont approché La Rochelle parce que nous avons une compétence en matière nautique, en matière maritime, en matière côtière, et notamment en matière environnementale appliquée à tous ces domaines géographiques bien identifiés. Et la guerre, la deuxième phase de la guerre, donc l'agression récente, nous a privés de ce démarrage d'une coopération qui semblait très prometteuse et que nous étions vraiment, vraiment très près, très heureux, très, très désireux de faire. Or, depuis, je lance un appel à qui veut bien l'entendre. Nous sommes toujours dans ce même état d'esprit, bien sûr, comme partout, nos associations, nos Ukrainiens, parce que nous en avons un certain nombre à La Rochelle, se sont mobilisés pour faire des dons. Nous avons expédié des convois de camions entiers de dons divers et variés. Donc, il y a toujours cette motivation au niveau de la société civile et des associations. Il y a même l'association des Ukrainiens de l'Atlantique, dont le vice-président est Rochelais. Donc, nous avons tout l'élan qu'il faut. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que de la part des augustes participants à cette réunion, que quelqu'un nous propose un partenariat avec une ville, si possible côtière, maritime, sur la mer Noire, parce que c'est effectivement là où on pourrait donner le maximum de notre compétence et de notre bonne volonté à l'égard de ce grand pays qui souffre, et nous souffrons avec lui.
Merci. Zaporijja, voilà. Message bien pris. Vous regarderez mon CV. J'aime beaucoup La Rochelle pour plein de raisons. Venez le 19, que votre maire vienne au congrès des maires. Normalement, les représentants des quatre associations de collectivités ukrainiennes seront là. Il y aura des Ukrainiens présents et il faut se prendre par le bras et leur demander et leur dire, et ça va pleuvoir. Ils n'attendent que ça, des partenariats. Et c'est à vous ensuite de déterminer avec eux. Nous, on va faire un ménage à trois avec, même à 4, 5, 6, avec Vinitia, puisque moi, je construis un partenariat région, mais aussi, je voudrais que ma capitale de région soit avec Vinitia, Dijon. Donc, Vinitia va se retrouver avec toute une série de partenaires. Et on essaye aussi de mettre ça dans un contexte européen global. On a aussi des partenaires polonais, tchèques, etc. Donc, venez, que votre maire vienne, qu'il vienne avec ses services, s'il le veut. Et il y aura matière à rencontrer, si ce n'est l'élu avec lequel vous vous envolerez pour une grande histoire d'amour, au moins des portes d'entrée, et ce sont ces quatre associations de collectivités. Après, il faut trouver les bonnes raisons. En vrai, on peut se jumeler avec n'importe qui en Ukraine. Je veux dire, après, il faut moi, j'ai réfléchi, j'ai cherché en disant une région qui ressemble un peu à la mienne, et puis à un moment donné, j'ai découvert que j'avais un cluster agroalimentaire qui avait engagé des choses avec Vinitia, c'est pour ça que je suis allé avec Vinitia. Mais j'aurais très bien pu aller avec Lviv. Voilà, je pourrais vous dire ce que je pense aussi d'un certain nombre d'élus. Certains sont plus ouverts. Je vais dire un truc. On n'est pas enregistré. Je peux dire. Il y a un truc. Moi, j'ai demandé un truc. c'est qu'on vérifie qu'on ne me propose pas de me marier avec une collectivité qui serait dirigée par des gens dont les orientations politiques d'avant la guerre auraient pu se rapprocher de celles de l'extrême droite en France. Vous voyez ? Parce que là, j'aurais l'air malin. Moi, je suis un élu de centre-gauche. Si je fais un partenariat avec un maire dont on me dit voilà, 6 mois après qu'en fait le type est un type d'extrême droite, peu compliqué. Même si la démocratie fait qu'un jumelage entre deux villes fait qu'un jour elles sont dirigées par Pierre et demain peut-être par Paul et que les choses vont bouger. Mais à l'instant T, il fallait quand même s'assurer de cet élément-là. Au-delà de ça, après, il faut trouver... voilà, Marseille a envie de faire des choses avec Odessa pour des raisons évidentes. Il y a d'autres villes côtières. Faut trouver le bon prétexte, entre guillemets. Et puis après, les affinités de femmes et d'hommes, les envies. D'autres questions ?
Oui, juste pour répondre également aussi, nous, on a été également aidés par l'ambassade d'Ukraine en France pour justement jumeler des personnes. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à venir nous voir pour vous mettre en lien également. Donc, voilà.
Ils seront là pendant le congrès. Madame.
Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est moins une question qu'une invitation. Parce que
vous voulez dire qui vous êtes ?
Oui, je le fais à l'instant. Je suis l'adjointe au maire de Lille qui va accueillir donc la rencontre finale de Inspire au mois de décembre prochain. Je salue aussi Liane Coopération qui est ici dans les réseaux multi-acteurs. Et je voudrais, en marge de cette conclusion, en fait, lancer aussi une invitation aux collectivités territoriales. La ville de Lille est jumelée avec celle de Kharkiv, qui n'est pas exactement au bord de la mer, mais par contre qui est pilonnée nuit et jour depuis 1978. Donc c'est un très ancien partenariat. Et elle est aussi jumelée avec la ville de Wrocław. Et nous avons accueilli à Lille et dans la région plus de pratiquement un millier d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes, en passant par l'intermédiaire de notre ville jumelle de Wrocław, c'est-à-dire en Pologne, donc à la frontière, en soulageant en quelque sorte l'effort d'accueil des Polonais. Et nous avons, dès le début, le maire de Lille, Martine Aubry, a immédiatement pris attache avec le maire de Kharkiv pour s'engager avec d'autres des villes jumelles avec lesquelles nous sommes en partenariat, donc notamment la ville de Cologne et la ville de Leeds, qui sont également jumelées avec Kharkiv pour la ville de Leeds, un engagement sur la reconstruction. Il se trouve qu'avec la ville polonaise de Wrocław, on travaille sur la ville durable, et donc évidemment, ça fait partie des éléments. Les séjours de répit sont des rencontres absolument fondamentales et très importantes. Il y en a eu deux. Nous avons accueilli deux fois des jeunes ukrainiennes et ukrainiens. Dans un premier, c'était un séjour sportif. Et un deuxième, c'était plutôt un séjour de répit pendant les vacances. Et en fait, tout le monde était bouleversé à la fin de ces rencontres, hein, parce que c'est humainement, évidemment, assez saisissant. Mais ceci étant dit, on voit bien à quel point c'est nécessaire à quel point dans l'accueil des enfants, en fait, les premiers jours, ils sont encore très à l'affût d'un bruit, d'un éclat, de quelque chose qui les inquiète. Et puis petit à petit, en fait, on sent que le répit survient. Et c'est terrible de leur dire au revoir et les laisser repartir. Alors c'est terrible parce qu'on sait que va recommencer cette espèce de spirale comme ça. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Je me permets, je fais court simplement pour dire que je profite d'être ici à Cité Unie France pour lancer une invitation, si je peux me permettre, enfin en tout cas une suggestion, c'est que nous nous retrouvions élus engagés dans la coopération avec l'Ukraine de longue date ou fraîchement conclue, peu importe, en fait en territoire ukrainien. C'est-à-dire qu'il est de coutume que Cités Unies France organise des délégations d'élus qui se rendent pas forcément dans leur ville jumelle, pour être tout à fait franche, nous ne pouvons pas nous rendre à Kharkiv. Il nous est déconseillé de nous rendre à Kharkiv. Je vous vois opiner, mais nous ne pouvons pas. Nous sommes jumelés avec la ville de Naplouse. Nous savons ce que c'est que d'attendre le feu vert du consulat général qui nous dit non, en fait, vous pouvez pas venir en ce moment. Voilà. Donc nous ne faisons pas. En revanche, nous pouvons nous retrouver à Kif, par exemple, et puis ensuite, comme il est de coutume dans des rencontres de coopération, chacun va ou plus ou moins, ou s'il le peut, dans la ville qui est la sienne, la ville jumelle qui est la sienne. Mais vraiment d'avoir un moment un peu solennel dans lequel les villes françaises qui ont des jumelages avec l'Ukraine et les villes ukrainiennes se retrouvent à Kiev, où là vraiment c'est possible de se retrouver et d'avoir un moment comme ça, une adresse qui soit celle des collectivités locales et qui soit pas qui soit très très proche de la réalité du terrain, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que nous allons tous et toutes travailler sur la reconstruction. C'est pas une mince affaire, il va falloir trouver des millions pour faire cela, mais il faut aussi trouver de l'expertise. Nous en avons dans nos collectivités, nous sommes prêts. Mais nous avons besoin d'avoir une espèce d'élan collectif, et donc je présume que nous pourrons compter sur vous.
Bien, c'était. J'ai le droit de rebondir sur cette remarque. Non, je faisais pas la moue sur ce que vous disiez. Si on s'en tient à ce qu'on a le droit de faire avec un pays en guerre. On fait pas grand chose, mais c'est normal. Il y a des règles, tout ça, des assurances, des machins, des trucs. C'est pour ça que moi j'ai pas réussi à emmener un fonctionnaire pour l'instant. Tous ceux qui y sont allés ont pris sur leur bonnet. Moi, mes équipes m'ont dit "Oh, c'est pas grave, vous êtes élu." Je dis alors d'accord, donc je suis bulletproof. Donc s'il m'arrive un truc, c'est pas grave. Nous, on est des êtres éthérés, mais emmener des fonctionnaires, je parle pas du ministère des Affaires étrangères, mais des collectivités, c'est soit prendre des assurances qui coûtent très 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 cher, soit accepter de prendre le risque de le faire comme ça, sachant que la vérité de la situation en Ukraine, c'est quand même pour 80% du territoire, celui qui n'est pas au front, beaucoup d'alertes tout le temps, mais heureusement, une vie normale sous cette réserve-là, 80% ou 90% du temps. Ce qui est quelque chose d'extrêmement important à expliquer, notamment dans la dynamique de reconstruction et d'accompagnement, parce que quand on parle à des gens, ils disent « Ah mais non, mais on dit, on va pas aller... » Ils ont l'impression qu'ils vont aller à Gaza sous les bombes aujourd'hui. Quand on emmène des gens en Ukraine, effectivement, comme vous le disiez, même si Christian, lui, est allé à Kharkiv au moment de l'offensive de début mai... Quand on va à Lviv, quand on va à Vinnytsia, quand on va au cœur de Kiev, c'est pas zéro risque. Mais enfin, c'est pas non plus, on court pas entre les balles, quoi. Il y a une vie, il y a des enfants qui tous les matins vont à l'école, il y a des commerces qui, les commerces ouvrent, les entreprises fonctionnent. Donc il faut avoir en tête cette double réalité d'un pays où il y a un front, des hommes et des femmes qui meurent tous les jours, qui sont ramenés à Lviv tous les jours ou tous les deux jours. Les corbillards passent devant la mairie pour aller enterrer les enfants de Lviv revenus du front. Et je suppose que c'est la même chose dans beaucoup de villes. Mais en même temps qu'il y a ça, il y a une activité, une vie entre guillemets normale. Et c'est une espèce de contradiction qu'il faut comprendre, parce que sinon on est trop contraint, on risque d'être trop contraint et d'avoir peur. Donc moi je suis parfaitement d'accord avec vous, je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose, les collectivités françaises en Ukraine, si possible effectivement pas sur la ligne de front, ça ne nous laisserait pas le faire, peu importe, ou d'ailleurs sur le forum franco-ukrainien dans le cadre de la CNCD, l'idée qu'on avait au départ, on s'était posé la question entre nous, alors est-ce qu'on fait un truc en France, est-ce qu'on fait un truc en Ukraine, est-ce qu'on fait un truc entre les deux, et en fonction de la cible que l'on vise, on le fait à un endroit différent. On le fait au Congrès des maires et en France parce qu'on veut parler aux collectivités françaises et on veut qu'il y en ait plus qu'il y a. Mais à un moment donné, faire quelque chose là-bas en emmenant un nombre conséquent d'élus, pour montrer la présence de la France et l'engagement de la France. Moi, je suis alors à 100% pour, d'un point de vue élu local. Voilà, donc je ne faisais pas la moue. Monsieur, 3, dans quel ordre, peu importe. Lui, c'est le plus près. 4, et après on arrête. 4, mais vous me faites question, pas aussi long que mes réponses, sinon on n'y arrive pas.
C'est pour compléter votre intervention, Jérôme Slander, je suis adjoint au maire à la ville de Clermont-Ferrand. On est effectivement jumelé maintenant depuis un an avec la ville de Kremenchuk en Ukraine. Et effectivement, la question des déplacements en Ukraine, c'est une vraie question compliquée. Parce que quand on interroge le ministère des Affaires étrangères, il nous dit « on ne vous recommande pas d'y aller ». Mais on ne nous interdit pas. Après, se pose une question. Et moi, je profite de votre présence. Ça serait bien qu'on puisse avoir un cadre juridique. Nous, on a saisi notre direction des affaires juridiques pour savoir si on pouvait se déplacer élu et agent territoriaux. Alors, les directions des affaires juridiques dans la collectivité, c'est ceinture et bretelles, donc c'est pas possible pour les agents. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont bulletproof, c'est que ça, c'est de nature à pouvoir engager la responsabilité du maire s'il arrivait quelque chose sur place. Mais du coup, moi, j'aimerais bien avoir quand même des éléments juridiques pour savoir, parce qu'on a des agents qui sont volontaires, ça peut faire que sur la base du volontariat, pour partir, parce qu'on a des coopérations engagées, et du coup un déplacement sur place, ça a du sens pour approfondir les coopérations. Donc si l'État peut nous donner un cadre clair sur cette question, ça serait très utile. Et puis après, madame, je rejoins tout à fait votre proposition, et je pense que c'est extrêmement pertinent que l'on puisse se déplacer. Alors effectivement, toutes les collectivités ne sont pas confrontées aux mêmes situations, plus ou moins proches de la ligne de front. Nous, on est à 200 km, donc il y a moins de bombardements, il y en a quelques-uns parfois, mais je pense que c'est extrêmement important quand on est une collectivité territoriale que de pouvoir manifester physiquement notre présence, notre solidarité sur place en Ukraine.
Non, mais en deux mots. Le cadre, il est forcément, il est forcément difficile à appréhender parce que nous, ce qu'on émet, c'est des recommandations uniquement. Il y a une liberté de
C'est pas ça. Le vrai, là, non, c'est pas comme ça. En vrai, pardon, je vais vous interrompre, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le ministère des Affaires étrangères a classé l'Ukraine est pays en guerre. Pays en guerre est en rouge. En rouge, les assurances n'assurent pas. L'Angleterre a deux niveaux de classement sur l'Ukraine. Il y a la zone de front, qui a un classement plus dur que la zone arrière. Et en vérité, c'est cette chose-là, et je ne sais pas si juridiquement vous savez faire, mais dès lors qu'on change de catégorie, derrière, le système assurantiel devient plus gérable. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'assurer. Hein. Avec le comité des régions, on le fait. Moi, j'ai demandé dans ma région, mais c'est du style 10 000 euros par mois et par perse pour une personne. Enfin, c'est des tarifs de dingue. En vrai, et qui est un peu de l'argent foutu en l'air entre nous. Il vaut mieux 10 000 euros pour aider la collectivité en face que... Voilà, moi j'y suis allé trois fois. Bon, bref.
Oui, bon, je suis Christophe Moreau, je suis le directeur de la FCCRU. Je voulais remercier les collègues de Cités Unies France de nous avoir donné l'opportunité d'organiser cet atelier. Je voudrais remercier bien évidemment le ministère pour le soutien qu'il a apporté à notre projet. Je voudrais revenir sur quelque chose que, Président, vous avez dit tout à l'heure et qui est très important et qu'il ne faut absolument pas taire. C'est votre souhait de ne pas travailler avec des collectivités ou des élus que vous aviez identifiés comme extrême droite. Pourquoi c'est très important ? Parce que Frédéric Blanc a très bien rappelé la valeur ajoutée, l'expertise des collectivités françaises. Mais moi, je rajouterais une autre valeur ajoutée, c'est le projet politique que nous portons, qui est celui de l'État de droit et de la démocratie. Et chaque élu local, et c'est pour ça qu'il est très important donc, dans ces coopérations, que les élus locaux français soient en première ligne. Parce que s'il s'agit simplement de savoir quelle taille de tuyau il faut sur un réseau d'assainissement, j'imagine que les gens de Veolia le savent. D'ailleurs, ils sont peut-être déjà en Ukraine. Ils sont peut-être déjà. Donc la valeur ajoutée de nos coopérations, c'est le projet politique aussi que nous portons, qui est celui de la démocratie, de l'État de droit face finalement à une agression qui remet en cause ces principes. Et je crois que c'est des valeurs que nous partageons avec l'État. Et donc, effectivement, c'est la valeur ajoutée. Et c'est pour ça aussi que dans ces coopérations, les élus locaux, comme c'est le cas aujourd'hui, les élus locaux doivent être en première ligne parce que c'est eux qui portent ce projet. Voilà, Président, ce que Merci. Je voulais rappeler.
Rien à rajouter. Monsieur. Et puis, Madame, pour finir. Je l'ai vu. Toulouse.
Merci. Oui, Jean-Claude Dardollet, adjoint au maire de Toulouse. On a un jumelage depuis 50 ans à partir de l'année prochaine. Hein, c'est en 75 qu'on avait ce jumelage et le jumelage apporte ce supplément d'âme qui permet d'aller plus loin, d'aller plus fort et de mobiliser les associations, de mobiliser les diasporas, etc. Donc on fait plein de choses. Et il n'y a pas une semaine en ce moment, on a une douzaine de jeunes qui viennent apprendre à faire la cuisine. On a tous les ans, on a une trentaine de jeunes qui vont dans les colonies de vacances de Toulouse. Enfin, il n'y a pas une semaine sans qu'on ait une action avec l'Ukraine. Et en ce moment d'ailleurs, France Expertise vient de financer l'hôpital de Toulouse à hauteur de 20 millions d'euros, excusez du peu. Seul hôpital en France a accompagné un hôpital à Kiev et à Dnipro. Donc une action dans la durée sur 3 ans, sur de l'expertise uniquement, même pas de la construction. Hein, donc cette expertise est importante. Alors mon message, c'est juste à l'égard du Quai d'Orsay. C'est bien gentil de demander aux collectivités de vous apporter de l'argent. C'est le monde à l'envers, surtout par les temps qui courent.
J'ai encore pas fait ma conclusion. Me spoil pas trop.
Point de suspension. Donc l'argent qu'on donne dans ces fonds, en plus on a assez peu de retours. C'est-à-dire que c'est de l'argent pour nous des Toulousains. Et j'avoue que l'État ne dit pas ce qu'il en fait. Il nous remercie, ou plutôt il auto-remercie la France, mais il devrait remercier les collectivités. Voilà. Et d'autre part, si dans toutes ces actions, on pouvait avoir de l'argent descendant, de l'État. Alors France Expertise le fait directement auprès des centres d'expertise. Mais à l'aune de ce que vient de dire Christophe Moreau, c'est-à-dire de l'influence considérable que l'on a dans la dynamique politique pour un retour vers une démocratie porteuse européenne, etc., je pense que de l'argent qui viendrait un petit peu de l'État nous ferait grand bien. Merci beaucoup.
Madame. Non, vous n'allez pas répondre parce qu'on n'a plus le temps après, puis c'est moi qui vais conclure, pardon.
Merci.
Mais je vais dire du bien de vous, vous inquiétez pas. De vous personnellement. Je vous en prie, madame.
Merci, merci beaucoup. Sonia Storovtsov, adjointe au maire de Lyon.
Je ne suis pas socialiste, moi je suis radical de gauche.
Aux relations internationales. Je vous remercie pour vos différentes interventions. Je voulais rebondir sur certains points, notamment le déplacement. Merci beaucoup, c'est une très bonne idée. Je vous rappelle qu'effectivement, il y a déjà quelques maires français qui se sont rendus sur place, notamment le maire de Lyon, Grégory Doucet, mais également le maire de Marseille, Benoît Payan, en août 2022. Que tout s'est extrêmement bien passé, que c'était une expérience très marquante pour les élus. Et vraiment, je vous conseille, si vous avez l'occasion d'y aller, de se joindre à cette délégation qui pourrait se monter sous la houlette, pourquoi pas, de la FCCRE, de Cités Unies France. C'est une bonne idée. Je voulais rebondir, Monsieur Molineau, sur vos propos d'introduction. Vous rappeliez, oui, j'ai été attentive, vous rappeliez la nécessité de coordonner les différents réseaux, justement. Aujourd'hui, on a la FCCRE, merci Christophe d'avoir pris la parole, Cités Unies France. On a aussi un réseau qui s'appelle Eurocities. Je me permets d'en parler parce qu'on était quelques-uns hier à être à Strasbourg et c'était important notamment pour la ville de Lyon parce que ça nous a permis de revoir Andrei Salovi, le maire de Lviv. La ville de Lyon est bien évidemment en partenariat depuis le début des années 2000 avec la ville des Lyons en Ukraine, Lviv. Et on a reparlé notre coopération, on a reparlé la nécessité d'amener des maires, des élus en Ukraine, de les rassurer. Plusieurs maires, y compris de grandes capitales européennes, sont inquiets et sont pas forcément envie de faire le déplacement, mais c'est important, à la fois dans notre pays, en France, pour monter le soutien sur la scène internationale, toujours pour démontrer ce soutien, mais aussi en Ukraine, parce que ça permet de leur montrer, comme l'a rappelé l'élu de Zaporojia, que ils ne sont pas seuls et ils peuvent compter sur l'appui des Français. Et je pense que l'esprit, en fait, leur permettre de garder un bon esprit et de rester combatif est extrêmement important. Donc ce serait une très bonne chose qu'on puisse monter ce déplacement, mais aussi une très bonne chose qu'on puisse s'assurer d'avoir une coordination entre tous les réseaux d'élus et qu'on ne laisse pas nécessairement un réseau ou un autre de côté, parce que pour nous, élus, c'est aussi de la perte d'efficacité de pouvoir d'agir que de devoir faire en sorte de coordonner toutes ces actions. Et je profiterai de l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole pour vous rappeler que demain, il y aura un café-rencontre avec Électriciens sans frontières qui a également permis à la ville de Lyon d'envoyer des générateurs, pas à Lviv, mais sur le front parce que c'est là-bas que les besoins étaient. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus à 14h30 demain. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On devait s'arrêter à 15, il est 20, donc je vais conclure et je vais essayer de le faire vite. D'abord, je vais essayer de faire vers à moitié vide, vers à moitié plein. Mais bon, vous avez vu, le ministère est représenté par quelqu'un de très positif. Il vient d'arriver. Ne le mangeons pas tout de suite. Hein ? Moi, ce qu'il a dit sur la décentralisation, j'adore. On va passer une petite heure ensemble sur les 20 dernières années et ceux qui nous ont amenés dans la mouise dans laquelle on est en train de se retrouver là. Et le collègue de Toulouse a raison. Au-delà de ce que vous dites qui est parfaitement entendable et qui nous fait plaisir, derrière, il faut que la vérité des chiffres s'aligne. L'AFD a ouvert son champ d'intervention à l'Ukraine. On les a auditionnés, c'est super. Et puis après, ils ont annoncé la somme qu'ils avaient. J'ai cru que c'était uniquement pour l'Ukraine, c'était pour le monde entier. Donc là, j'ai failli m'étouffer. Le bleu pour le projet de budget pour 2025 amène à une réduction assez considérable des crédits du ministère des Affaires étrangères. Il ne faudrait pas que ça ne concerne que la coopération décentralisée ou la solidarité internationale. Ça serait quand même un petit sujet. Vous n'êtes pas comptable de tout ça, mais voilà. C'est vrai que dans un pays qui est parti d'un schéma très centralisé, un peu comme l'Ukraine d'ailleurs. Camille, après avoir coupé la tête d'un roi 200 ans, a créé 36 000 petits rois et des broutilles partout, depuis 20 ans, recentralise, notamment par le levier financier et fiscal. Et aujourd'hui, on est un petit peu au bout de ce qui est en train de nous être proposé là. En fait, si on veut bien le regarder en toute honnêteté, c'est la conséquence logique de ce que tous les gouvernements ont décidé depuis 20 ans. Il serait peut-être temps qu'on se repose la question de ce qu'est vraiment la décentralisation. Donc ça peut créer un dialogue très fructueux avec nos amis ukrainiens qui ont comme grand défi après, avec la reconstruction et la paix, celui de la décentralisation. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant sur cet échange cet après-midi, c'est que l'inverse aurait été étonnant, direz-vous, mais je n'entends que des voix concordantes. Vous avez cité le maire de Marseille, le maire de Lyon, on a entendu Toulouse, dans le souci d'un bon équilibre, je me dois de rappeler que le maire de Cannes, aussi président de l'AMF, s'est rendu plusieurs fois en Ukraine. Et moi, je n'appartiens pas à sa famille politique, donc je le dis avec d'autant plus de tranquillité. Il ne faut pas que, et ça ne doit pas compter d'ailleurs, et personne n'en a parlé ici, l'enjeu de soutien à l'Ukraine, il transcende nos appartenances, nos philosophies, dès lors qu'on est dans le champ républicain. Et il faut qu'on avance unis sur ce sujet. Donc moi, je pense qu'on peut se satisfaire, mesdames, messieurs, merci de vos interventions, mais de cet élan qui est toujours présent. Venez au Congrès des maires le 19 novembre, ceux qui peuvent. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, que j'accueille avec grand plaisir, puisqu'il a l'air de s'intéresser plus à la CNCD que son prédécesseur, donc c'est pas difficile, me direz-vous, mais c'est un excellent signe. A priori, va présider la prochaine CNCD, en tout cas, c'est l'info qui circule en ce moment. Donc réjouissons-nous. Le ministre de l'Europe, accessoirement, était président du groupe d'amitié France-Ukraine. Donc pour nous qui nous intéressons à l'Ukraine, ça veut dire que normalement, il y a là aussi une oreille qui devrait être assez sensible au sujet ukrainien. Donc on a un réalignement de planète dont Frédéric Blanc est le symbole. Il va rentrer, il va se faire couper la tête par son chef parce que son chef ne m'a jamais entendu dire autant de bien de la DCTCIV. Mais en vérité, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on additionne nos bonnes énergies pour soutenir ce pays. Et c'est M. Moreux qui a dit la chose peut-être la plus importante de toute l'après-midi. Et la plus intelligente, c'est par définition. Il dit toujours le truc le plus intelligent. Mais le plus intelligent et le plus important, qui est que tout ça s'inscrit dans une logique politique et que si l'Ukraine ne faisait pas le choix de s'arrimer aux valeurs européennes, unies dans la diversité, démocratie, état de droit, lutte contre la corruption, intégration, décentralisation, intégration des femmes, enfin, s'il n'y avait pas cette volonté de s'inscrire dans les valeurs occidentales, nous n'aurions pas l'énergie que nous y mettons là. Donc, c'est ça l'important. Ce qui se joue, c'est effectivement la situation d'hommes, de femmes, d'enfants qui meurent, qui souffrent, mais c'est aussi, dans un temps moyen et long, s'ancrer dans le modèle démocratique qui fait la grandeur de notre pays. Merci à tous et à toutes.